Nous voici en cette septième rencontre du catéchisme pour adultes. Ce catéchisme vise, je le rappelle, à obtenir, à acquérir plutôt une vision d'ensemble de tous les mystères de la foi. Dans ce but, nous avons approfondi une notion fondamentale, nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Qui est ce nous ? C'est nous en tant qu'homme. Créature corporelle, dotée d'une âme, eh bien nous sommes plutôt appelés à la béatitude, c'est-à-dire à rejoindre Dieu, notre Créateur. C'est ce dessein éternel que nous avons vu. Dieu a le désir de faire de nous des fils. De telle sorte, lorsque nous sommes approchés du mystère de Dieu, nous avons vu combien il y a cette relation qui unit le Père et le Fils dans le Saint-Esprit, eh bien c'est également ce qui nous caractérise, nous ici-bas, nous sommes en chemin, nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu, mais qu'est-ce que veut Dieu lorsqu'il nous crée? Eh bien il veut que nous soyons ses fils, c'est-à-dire ce que le Fils de Dieu est par nature, le Fils du Père, nous avons à le devenir par la grâce. Cette grâce, elle nous est donnée par l'Esprit d'adoption qui n'est autre que l'Esprit Saint. Dieu veut faire de nous des fils. Lorsque nous avions réalisé un peu l'ébauche de tous ces mystères de la foi, nous avions parlé bien sûr du monde angélique, nous avions parlé de la création, et c'est ce regard porté sur la création que nous allons approfondir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que à côté de ce à quoi nous sommes appelés à devenir fils, enfants de Dieu, eh bien, il y a également une fin pour tout ce que Dieu a créé. Alors, on va distinguer aujourd'hui deux choses. La fin qui nous est promise en tant que créature spirituelle, c'est la béatitude, c'est le fait de voir Dieu, nous en avons parlé, mais nous allons voir également que dans tout le mystère de la création, il y a une fin bien particulière que Dieu, se donne. Pour cela, nous allons développer une attitude un peu théocentrique dans cette catéchèse, c'est-à-dire nous allons essayer de nous élever à ce regard que Dieu a sur tout ce qu'il a créé. Alors Dieu, dans la création, Dieu apparaît comme la source infinie de tout être et de tout amour. Parce que c'est Dieu qui crée par bonté, je vous avais dit, la bonté, c'est cette conjugaison de l'amour et du bien. Il est dans la nature de l'amour de se donner, Dieu se donne dans la création. Il est dans la nature du bien de se communiquer, et bien voilà que Dieu communique le bien à sa création. C'est ce que nous appelons la bonté. Donc tout cela provient de Dieu, de telle sorte que Dieu apparaît pour tout ce qui est créé, les hommes, le monde minéral, le monde végétal, les astres dans le ciel, tout reçoit de Dieu sa source de perfection. De telle sorte que cet amour et ce bien, ce qu'on appelle la bonté, ça s'impose, et j'aime beaucoup le terme de saint Thomas, irrésistiblement à l'ensemble même de la création. Ce qui veut dire que quand Dieu crée, il ne le fait pas comme ça, parce que ça lui est passé par l'idée, non. Il le fait avec une intention, de telle sorte que Dieu apparaît pour nous comme le commencement, mais également comme la fin. Mais voilà que pour chaque être qui est créé, ce bien que l'on recherche, est l'aboutissement naturel et logique. Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu, nous venons du bien, et nous recherchons toujours le bien. Nous cherchons à nous perfectionner, nous en tant que créatures, c'est-à-dire que nous cherchons la réalisation de ce bien. De telle sorte qu'on parle aujourd'hui, ce sera un peu le thème de notre catéchèse, du bien commun. On a coutume d'entendre parler du bien commun lorsque nous entendons parler de l'organisation de la société. Nous avons à rechercher le bien commun. Mais avant de jeter un regard sur la société humaine, nous allons y venir, je vous avais dit, avec Adam et Ève, c'est déjà l'ensemble de l'humanité que nous considérons. L'homme est un animal politique, il vit en société, il va rechercher le bien commun. Mais avant de nous arrêter au bien commun de cette société que nous formons ici-bas sur la Terre, il nous faut avoir ce bien commun qu'est Dieu, aboutissement naturel et logique de toute la création. Dieu apparaît comme le bien. Nous avions rencontré cette notion chez saint Augustin quand nous avions médité ce rapport entre la coopération de la nature et de la grâce. Nous avons mis à l'école de saint Augustin qui commentait ce verset. Et le Seigneur Dieu plaça l'homme dans le paradis pour le travailler et le garder. Et nous avions vu que l'homme a besoin de la seigneurie de Dieu, car il ne peut pas faire le bien, nous dit saint Augustin, sans être tourné vers celui qui est le bien. Eh bien, Dieu apparaît pour nous comme le bien commun de toute la création. De telle sorte que cette notion de bien commun, c'est la notion finalement la plus importante. Pourquoi ? Parce que c'est la plus générale. Nous la partageons en tant qu'hommes, avec les animaux, avec les végétaux, la petite fleur elle-même, elle est et elle va viser un bien, elle a un aboutissement naturel et logique, de telle sorte, nous dira saint Thomas d'Aquin, que tout l'univers eh bien, chante la louange du Créateur. Alors là, on a comme un peu la poésie médiévale, quand elle parle de cette réalité, il n'y a pas comme aujourd'hui un désenchantement du monde, au contraire, le monde est reçu de Dieu, donc il est source d'une grande action de grâce, c'est ainsi qu'on parle à l'époque médiévale, tout l'univers est là pour chanter la louange du Créateur. Cette notion de bien, du bien commun qu'est Dieu comme source de toute perfection, eh bien, c'est donc, ça fait partie des réalités les plus profondes qui régissent l'ensemble des créatures, mais aussi qui vont régir notre humanité. Alors, comment le dire encore autrement? L'amour divin et ce désir qu'il a de communiquer sa bonté à toute chose, eh bien voilà quel est le secret de la création. Hein, cet amour divin, l'amour et le désir de communiquer cette bonté à toute chose, c'est comme la marque de la création, cette empreinte indélébile que toute créature a en elle-même. Elle vient de Dieu et elle retourne également à Dieu. Elle est orientée vers le bien commun qu'est Dieu. Alors pour approfondir cela, on va se mettre à l'école de saint Thomas d'Aquin. Dans la prima pars, il va... Alors, je n'explique pas tout de ce qu'est le livre, mais saint Thomas d'Aquin s'efforce, comme nous en ce catéchisme, eh bien, de tout tenir, mais alors lui c'est avec la précision de l'horloger. Eh bien, dans la question 65 de sa première partie, il interroge l'œuvre de la création de la créature corporelle. Si vous vous rappelez, lorsqu'on avait vu avec... qu'on avait parlé, pardon, avec saint Augustin des débuts de la Genèse, je vous avais dit qu'il y avait une partie des gens qui étaient chrétiens au début, qui font partie d'une secte qu'on appelle les manichéens, pour qui il y a comme deux dieux, le dieu bon, qui lui n'a fait que les choses spirituelles, et le dieu mauvais, qui lui a fait les choses corporelles et la matière. Déjà, je vous avais dit, saint Augustin va commenter la Genèse pour contrer ces différentes allégations, mais saint Thomas d'Aquin aussi, là, s'interroge dans la question, on va lire un extrait de la réponse, « La créature corporelle a-t-elle été faite, en vue de la bonté de Dieu ?» Alors, le contexte juste de cette question, c'était bien de dire, Dieu étant un pur esprit, il n'a rien à voir avec la matière. Pourquoi les manichéens disaient, mais ce n'est pas le bon Dieu qui est à l'origine de la matière, c'est plutôt le mauvais Dieu, si on peut. Donc du coup, saint Thomas d'Aquin là coupe les choses un peu à la racine, hein, pour dire que oui, Dieu a créé la matière qui lui est étrangère, mais cette matière, elle est bonne. Hein, la création matérielle est bonne, même si Dieu est spirituel. Alors, on laisse de côté cette contextualisation de la question pour nous attacher eh bien, à quelque chose de plus important. Nous allons mettre en place, à partir de Dieu, qui est le bien commun de toute chose, eh bien, ce qui est le point commun de toute la création et de toutes les créatures. Alors, je commence à lire ce passage que je vais commenter. Considérons, nous dit saint Thomas, que l'univers entier est constitué par l'ensemble de toutes les créatures. C'est déjà ce regard que nous devons avoir. Hein. L'univers est constitué par l'ensemble de toutes les créatures. Et il précise quelque chose de fondamental, comme un tout l'est par ses parties. En tant qu'homme, quand on est un petit enfant, on a presque l'impression en naissant que le monde tourne autour de nous. Je pleure, mon père ou ma mère viennent à mon secours. J'ai faim, je pleure, la réponse arrive. Et le petit enfant, quand il est bien éduqué par ses parents, mieux quand il est élevé, ben apprend petit à petit que le monde ne tourne pas autour de lui, qu'il y a tout un monde qu'il doit découvrir. Hein. Donc ça, c'est une notion déjà importante que nous dit ici saint Thomas. Nous considérons que l'univers entier est constitué par l'ensemble de toutes les créatures comme un tout l'est par ses parties. Voilà, ça c'est déjà un premier point important. Le monde n'est pas que pour moi individuellement, parce que là, justement, dans cette théologie-là, on coupe à la racine, avant même qu'elle ne puisse surgir, toute doctrine de l'individualisme. Là, l'univers est un tout, hein, et ce tout est constitué de différentes parties. Alors nous continuons la lecture de saint Thomas. Or, si nous voulons fixer la cause finale d'un tout et de ses parties, nous trouvons ceci. Alors, avant d'arriver aux trois points que va développer saint Thomas, la cause finale. Alors, la cause première, c'est Dieu. Je vous dis, nous venons de Dieu. Donc ça, c'est la cause première. La cause finale, eh bien, c'est la fin. Qu'est-ce que Dieu veut lorsqu'il a créé l'ensemble de l'univers? Dans cette question 65 de la prima pars de saint Thomas d'Aquin, eh bien, qu'est-ce que va nous dire saint Thomas? Eh bien, que Dieu, il œuvre dans la création pour communiquer sa bonté. Je vous ai dit, il est dans la nature de l'amour de se donner, il est dans la nature du bien de se communiquer. Voilà ce que poursuit Dieu lorsqu'il va fonder ainsi l'univers créé. Donc si nous voulons fixer la cause finale d'un tout et de ses parties, oui, si nous sommes un ensemble et que nous provenons d'une même cause, c'est qu'il y a quelque chose à la fin qui nous est à tous commun. Je ne parle pas, là, attention, de cette finalité dont nous avons déjà parlé en tant que société humaine, en tant qu'homme. Nous sommes appelés au dessein éternel de Dieu, faire de nous des fils. Dieu veut faire de nous des fils en tant que créature surnaturelle, en tant qu'homme créé à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas le projet que le bon Dieu a pour la petite pâquerette. Mais pourtant, il y a un projet que Dieu a qui me vaut pour moi, pour la pâquerette, pour le monde minéral, pour l'ensemble de l'écureuil, de tous les animaux. Il y a un but. Dieu veut communiquer sa bonté. Et si saint Thomas nous dit qu'il y a comme ça cause première, cause finale, qu'il y a un tout et que le tout c'est un peu plus que la somme de toutes les parties, c'est bien parce qu'il va y avoir un ordre à cette création. Cet ordre, on l'entend déjà dans le récit de la Genèse, hein, du premier jour, deuxième jour, troisième jour, hein, l'homme arrive comme le sommet de la création. C'est ce que saint Thomas là va comme déchiffrer de ce grand livre qu'est le monde, le grand livre de la création, pour parler un peu comme les médiévaux qui, une fois encore, n'étaient pas désenchantés par la création, mais qui, au contraire, comme Adam dans ce jardin, avaient ce regard, hein, ce regard qui, des créatures, remonte au Créateur. Je reprends la phrase de saint Thomas. « Si nous voulons fixer la cause finale d'un tout et de ses parties, nous trouvons ceci. » Premier point. « Chacune des parties existe en vue de ses actes. » Alors on se dit, oulala, la phrase est théorique, elle est compliquée. L'exemple de saint Thomas est lumineux. Comme l'œil existe pour voir. Ben oui, Dieu, il va nous créer, donc toutes les parties vont exister en vue de ses actes. L'œil existe en vue de voir. Ben voilà, nous sommes faits pour ce que nous sommes. Deuxièmement, nous dit saint Thomas, la partie la moins noble est faite en vue de la partie la plus noble. Et oui, dans la création ou dans la constitution des créatures, c'est très vrai en nous, parce que nous, il y a le corps et il y a l'âme. Il y a une partie moins noble, une partie plus noble. Ça ne veut pas dire que la partie moins noble n'a pas sa place, mais ça veut dire qu'elle est au service de quelque chose d'autre. Ça veut dire que dans la création, il y a des parties moins nobles et d'autres qui sont plus nobles. Qu'est-ce qui est au sommet de la création? Eh bien, les créatures spirituelles, l'homme et l'ange. s'il fallait en parler au singulier, parce que les anges, c'est difficile d'en parler au singulier, parce que chacun est sa propre nature, enfin ne rentrons pas là-dedans pour l'instant. Je reprends cette deuxième partie. La partie la moins noble est faite en vue de la plus noble, il donne un exemple, comme le sens pour l'intellect. Alors vous allez me dire, là, l'argument, je ne vois pas ce que là veut dire. Le sens, c'est les cinq sens. Les cinq sens, c'est ces sens corporels qui nous permettent d'être dans le monde et d'être en relation avec le monde. Dieu ne nous a pas seulement créés comme des êtres qui seraient tournés que sur eux-mêmes, ni même en relation avec leurs semblables, nous sommes aussi en relation avec le monde. C'est ça que saint Thomas veut vraiment tenir dans cet édifice de tout l'univers qui est tourné vers un bien qui lui est commun, un bien qui est Dieu. Donc, comme le sens pour l'intellect. Aristote nous dit ceci au commencement de sa métaphysique, la vue, le fait de voir, la vue est de tous nos sens celui qui nous fait acquérir le plus de connaissances. Je vois et par mon regard je distingue. Mais attention, je n'ai pas simplement un sens corporel, j'ai également mon intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? À partir des différents sens et de la façon d'interagir dans le monde, voilà que je fais rentrer le monde dans mon intelligence. C'est ce qu'on va appeler les concepts. Donc là, saint Thomas nous dit quoi? La partie la moins noble est faite en vue de la plus noble, comme les sens sont faits pour l'intellect. Ben oui, si j'ai la connaissance sensorielle, la vue, le goût, l'odorat, le toucher et l'ouïe, ben voilà, je suis en interaction avec le monde, mais ce n'est pas simplement entendre pour entendre, c'est entendre pour comprendre, hein, faire rentrer le monde en notre intelligence. Donc la partie la moins noble est faite en vue de la plus noble. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ben, ça va vouloir bien dire qu'il y a un ordre et une hiérarchie. Il y a le monde minéral, il y a le monde végétal, il y a le monde animal et il y a l'homme. Et on voit bien dans la structuration même de la Genèse comment l'homme arrive à la fin aussi parce que l'homme n'aurait pas pu commencer au début. Nous avons besoin de tout l'univers pour pouvoir vivre. Le monde est vraiment fait pour nous, mais ça ne veut pas dire qu'en créant le monde pour nous, Dieu se serait désintéressé du reste. Non, chacune des créations, chacune des créatures est vue, est vraiment considérée par le bon Dieu. Troisième partie de la réponse de saint Thomas, toutes les parties, et c'est un point fondamental, toutes les parties existent en vue de la perfection du tout. Oui, toutes les parties existent en vue de la perfection du tout. C'est déjà, alors là je vais un peu plus loin, mais c'est déjà aussi ce que saint Paul veut nous dire quand il compare l'Église à un corps. Quand il nous dit, voilà, l'Église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Il est la tête, nous sommes le corps. Et dans ce corps, la main ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi, le ceci et le cela. Voilà, nous sommes un tout. Je prends un autre exemple que je vis dans la chair en ce moment. Lorsque l'on a mal dans une partie du corps, c'est là où on se rend compte que cette partie du corps, elle fait un tout avec le reste parce que la douleur se ressent dans tout le corps. Donc c'est un peu ça que veut nous dire saint Thomas. Attention, toutes les parties existent en vue de la perfection du tout. Voilà aussi pourquoi Dieu a créé ce monde si riche, si divers, si beau. Il y a une perfection à rechercher, une perfection, il va le développer, de chaque créature, bien sûr, en elle-même, mais également qui vise la perfection du tout. C'était une question qu'on avait abordée. Dieu aurait-il pu faire un monde plus parfait? J'avais dit, oui, il aurait pu, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et ce n'est pas que Dieu ne l'a pas voulu, ce monde parfait, c'est qu'il a voulu accorder cette perfection, et en se perfectionnant, accorder aux créatures leur dignité. Je prends l'exemple du petit gland. Qu'est-ce qu'il faut pour que le gland devienne un chêne? Mais il faut beaucoup de choses. Il faudra déjà le monde minéral, il faudra la terre, il faudra les minéraux, il va falloir qu'il puisse germer, il va lui falloir la chaleur, il va lui falloir la lumière, il va lui falloir de l'eau. Vous voyez que là, ne serait-ce que le petit gland a besoin d'énormément de choses pour pouvoir vraiment se perfectionner dans l'existence. Et En tant que tel, il va du coup grandir, il va devenir un grand chêne, mais ce grand chêne, il est aussi dans le but de la perfection du tout. Il va servir pour le cycle de l'eau, il va servir vis-à-vis de l'oxygène par rapport à l'air, il va servir de matière première pour le bois, il va servir comme de maison, je ne sais pas comment il faudrait dire, pour les oiseaux, pour tout un tas de... Voilà, tout ça hein, montre bien qu'il y a une vie, une perfection du chêne. Hein, et que ce chêne, eh bien, on ne peut pas le couper du milieu dans lequel il est. Tout doit viser cette perfection. Donc, je reprends ce dernier point de saint Thomas. Toutes les parties existent en vue de la perfection du tout. Alors, il donne un exemple qui est plus compliqué, je passe, comme la matière en vue de la forme. On verra ça quand on traitera du corps et de l'âme. Enfin, nous dit saint Thomas, l'homme tout entier existe en vue d'une cause extrinsèque, par exemple la jouissance de Dieu. Alors là, il raccroche deux wagons à ce que nous avions déjà vu. Je vous ai dit, il y a, du point de vue de ce bien commun, toute créature, eh bien, elle est là pour manifester cette bonté de Dieu. C'est l'amour qui se donne, c'est le bien qui se communique à chaque créature. Mais la créature n'est pas indépendamment de tout cet univers que Dieu fait. Au contraire, tout le monde est en relation avec les autres. Le monde minéral n'est pas que pour être le monde minéral, il est là pour être le terreau eh bien, à tout le monde végétal. Le monde animal a besoin aussi du monde végétal, c'est quelque part sa nourriture. Voilà. Enfin, on est vraiment en relation. Cette relation aussi, elle nous dit quelque chose de la relation du Père et du Fils, hein. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement un amour de fusion où il n'y aurait que le Fils et le Père, ils ne tournent pas à deux. Non, il y a aussi l'Esprit-Saint. Hein, il y a vraiment cette communauté d'amour qu'est la Sainte Trinité. Ils sont en relation les uns avec les autres. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit-Saint, mais ils sont dans cette relation d'amour qui est un amour de communion. Mais nous aussi, voilà en quoi toutes les créatures ressemblent à Dieu parce qu'elles sont comme ça les différentes parties d'un tout. Hein, et Dieu est comme la clé de voûte de tout cet édifice, il est le bien commun. La cause première, celle qui fait qu'on est, la cause finale, ce qui va être la chose qui est perfectionnée. Voyez comment cette bonté de Dieu habite chacune des réalités de la création. Mais parmi ces créatures, voilà qu'il y a l'homme. Et c'est ce que nous dit saint Thomas, enfin, l'homme tout entier existe en vue d'une cause extrinsèque, la jouissance de Dieu. L'homme n'est pas simplement mis dans le monde pour perfectionner le monde. L'homme doit se perfectionner, c'est-à-dire, on vient de Dieu, on retourne à Dieu, il est appelé à une fin qui dépasse les capacités de sa nature, nous l'avions vu, c'est pas à la seule force de son bras que l'on peut aller à la vie éternelle, hein, c'est justement dans cette coopération de la nature et de la grâce qui doit nous amener jusqu'à la gloire du ciel. Hein, l'homme, c'est une nature graciée, saint Thomas ne fait que le répéter, l'homme est fait pour la grâce, il n'y a pas eu Adam et Ève qui n'avaient que la nature, non. La nature est déjà graciée, c'est-à-dire elle est en relation avec Dieu, c'est ça la grâce. Mais du coup, on est, je vous l'ai dit, hein, je raccroche beaucoup de wagons, on était en chemin, in via ici-bas. On vient de Dieu, on retourne à Dieu, on est en chemin, et bien voilà que nous sommes appelés à accéder à cette gloire. La nature, la grâce, elle est faite pour la gloire, qui est cette vision de Dieu. Donc saint Thomas nous dit, il y a cette vision de l'ensemble de l'univers, où chaque créature est portée par sa bonté, elle vise sa propre perfection, mais à l'intérieur, il y a quand même la créature surnaturelle, là il n'évoque pas les anges parce qu'il s'intéresse à la question de l'homme, il y a l'homme qui lui est appelé à une fin qui est autre, qui dépasse, si vous voulez, ce à quoi les autres créatures peuvent librement aspirer. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'a pas fait la petite pâquerette aussi belle, aussi simple soit-elle, et c'est déjà tout un mystère d'émerveillement que de voir cette fleur comme ça qui grandit, qui est là pour magnifier simplement la création, l'œuvre de magnificence, mais ce n'est pas pour la petite pâquerette que Dieu a fait le monde. Saint Thomas nous le disait tout à l'heure, il y a des parties moins nobles qui sont faites en vue de la plus noble, mais ça ne veut pas dire que Dieu se désintéresse des choses qui sont moins importante du point de vue de son dessein, du dessein divin. Enfin, l'homme tout entier existe en vue d'une cause extrinsèque, par exemple la jouissance de Dieu. Ainsi en est-il pareillement, poursuit saint Thomas, dans les parties de l'univers. Premièrement, chaque créature existe en vue de son acte propre et de sa perfection. Ben oui, hein, l'arbre, il existe d'abord en vue de son acte propre, mais c'est un arbre, il se perfectionne, il grandit, il devient un arbre, il porte du fruit. Il existe d'abord pour lui-même. Deuxièmement, les créatures les moins nobles existent en vue des plus nobles. De même que les créatures qui sont au-dessous de l'homme sont faites en vue de l'homme. Ben oui, les animaux sont faits pour l'homme. Le monde végétal est fait pour l'homme. Hein, le monde minéral également. Voyez, on a là, si vous voulez, comme une nostalgie, pourrions-nous dire aujourd'hui, de toute cette problématique de l'écologie, hein, de ce retour, on pourrait dire, à la nature. En fait, l'homme ne cesse jamais de revenir à la nature. Il y a eu cette phrase de Descartes, je vous l'avais déjà dit, qui caractérise ce rapport de possession que nous avons sur la création, une création qu'on ne peut même plus voir comme création, c'est des matières premières qu'on exploite, cette phrase de Descartes, « Nous serons maîtres et possesseurs de la nature ». Et on avait vu que Adam, au commencement, bien sûr, tout cela lui appartient, le monde est fait pour l'homme, ce n'est pas pour les anges hein, qu'il y a la terre, qu'il y a le soleil, ils ne sont pas corporels, c'est pour nous qu'il y a ça. Et donc du coup, il y a donc une hiérarchie des parties moins nobles qui sont au service de l'humanité. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'homme doit traiter ça comme du n'importe quoi. Non, c'est un don qui lui est fait. Donc les créatures moins nobles existent en vue des plus nobles, de même que les créatures qui sont au-dessous de l'homme sont faites en vue de l'homme, en poussant plus loin. C'est là où on voit que saint Thomas d'Aquin, il a ce geste si essentiel de tout tenir. En poussant plus loin, chaque créature est faite en vue de la perfection de l'univers. En poussant plus loin encore, l'univers tout entier, avec chacune de ses parties, est ordonné à Dieu comme à sa fin, en tant que, dans ses créatures, la bonté divine est représentée par une certaine imitation qui doit faire glorifier Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout l'univers chante la louange du Créateur. C'est vraiment la vocation d'Adam dans ce jardin qu'à partir de ce livre de la création, eh bien de remonter vraiment au Créateur. Donc là, on voit que tout se tient. Ce qui n'empêche pas, précise à nouveau saint Thomas, donc ça veut dire quoi ? Il y a une fin commune à tout ce qui existe, c'est cette bonté de Dieu hein, qui nous pousse à nous perfectionner. C'est Dieu, le bien commun de l'humanité, la notion la plus générale. On verra après, il y a des biens communs bien plus particuliers. Mais c'est la chose la plus générale, la bonté divine. Ce qui n'empêche pas que les créatures rationnelles, au-dessus de ce plan, aient leur fin en Dieu. Donc ça, c'est quoi ? C'est ce qu'on a appelé la béatitude. Selon une modalité spéciale, car elles peuvent l'atteindre par leur propre opération en le connaissant et en aimant Dieu. Voilà ce qui va être l'élément vraiment distinctif. Ce n'est pas cette bonté de Dieu qui est manifeste, notamment dans l'être humain, mais également dans l'ensemble de la création et des créatures, hein, mais ce qui va nous distinguer, c'est que nous pouvons connaître et aimer Dieu, de telle sorte que nous sommes appelés à bien davantage que les autres créatures, nous sommes appelés à entrer dans cette relation qui nous unit au Créateur. Plus que cela, l'amour et la bonté chez nous sont très importantes, de Dieu vis-à-vis de l'humanité, pardon, parce qu'il veut faire de nous des fils. Ainsi est-il évident, conclut saint Thomas, que la bonté divine est la fin de toutes les réalités corporelles. Vous comprenez, quand j'ai contextualisé tout à l'heure l'objet de cette question, de ces manichéens qui disent « Ah, mais le monde matériel, pourquoi ça ne va pas ?» Parce que le monde matériel, il se transforme, il est en mouvement, parce que ça pourrit, ça passe, et finalement tout passe. Ben non, là saint Thomas répond non. Il y a cette perfection de l'univers et il faut considérer vraiment ce regard de l'univers dans lequel toute la bonté de Dieu est manifestée. Donc Dieu apparaît comme le bien commun de tout l'univers, comme son principe et sa fin. Tous les êtres sont donc pénétrer en leur fond le plus intime par cette influence transcendante de Dieu, par cette influence aussi, qui est donc transcendante, elle se reçoit de Dieu, c'est la cause première, mais c'est aussi une influence unifiante. Les créatures sont très diverses. Qu'est-ce qui va les unifier? Eh bien, le fait qu'on est unis les uns aux autres comme les parties d'un même tout. Hein, nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu, et ce même tout, c'est l'univers. Hein, il y a donc aussi, on peut le voir encore autrement, il y a une subordination de toutes les créatures à l'univers. Mais dans cette subordination de toutes les créatures à l'univers, il y a aussi des relations secondaires des créatures entre elles. Non seulement toutes les créatures sont pour l'univers, mais également il y a des relations secondaires entre nous qui n'empêchent pas les autres. Donc voilà, à l'intérieur du coup de ce même univers. Donc Dieu, si Dieu est le principe de tout ça, quand il a l'intention créatrice, il est obligatoirement la fin. Hein, il crée avec une intention et à la fin, tout est perfectionné. Il faut faire du coup la distinction entre deux pôles. Hein, il faut bien distinguer entre ce qui est créé et le créateur. Dieu a créé le monde, on le dirait en théologie, propter se, pour lui. Il n'a pas créé le monde pour autre chose que pour lui-même. Pourquoi ? Ben, il n'est pas lié par une quelconque nécessité. Il ne doit pas absolument créer la création parce qu'il lui manquerait quelque chose. Non, il le fait pour lui, c'est-à-dire il le fait gratuitement, il le fait librement. Pourquoi ? J'insiste à nouveau. Parce qu'il est dans la nature de l'amour de se donner, parce qu'il est dans la nature du bien de se communiquer, parce que cette bonté de Dieu, eh bien, est ce qui rayonne dans toute la création. Donc chaque être, quel qu'il soit, vise lui aussi une fin. Hein? Et du coup, nous dit saint Thomas, rechercher sa fin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est rechercher sa perfection, c'est rechercher son bien. Donc il y a tout cela finalement dérive de Dieu qui est l'auteur de tout être, qui est l'auteur de toute la bonté, qui est l'auteur de toute la perfection. C'est donc cette gravitation incessante de la créature qui vient de Dieu et qui est tendue nécessairement vers lui, cette force irrésistible de la bonté de Dieu hein, qui s'exprime. Du coup, vouloir sa perfection, parce que nous sommes une créature, nous avons la volonté. Vouloir sa perfection, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est réaliser le projet de Dieu qui nous a créés et qui nous crée. Hein, on l'a vu, Adam, quand il est dans le jardin d'Éden, Adam, il n'a pas à se convertir. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, se convertir ? Ça veut dire revenir vers Dieu. Mais Adam, il n'a pas à se convertir. Pourquoi ? Parce qu'il est créé, dans cette nature graciée, en relation avec Dieu. Hein, la grâce, on peut lui donner cette définition très simple, c'est cette amitié avec laquelle Adam est avec le Créateur. On n'oublie pas que le soir, Dieu descendait dans le jardin à la fraîcheur du soir hein, pour discuter, être là dans cette relation d'amitié avec Adam et Ève, nos premiers parents. C'est nous qui devons nous convertir quand, de par notre comportement, de par notre acte, finalement nous nous détournons de notre propre perfection, hein, nous ne sommes plus comme une partie de ce tout, mais nous nous tournons vers nous-mêmes. Et du coup, on pourrait le dire autrement avec le langage, par exemple, de l'apôtre Saint Jean dans son épître. Dans ses épîtres, il nous dit « Vous devez être les enfants de la lumière, vous devez pratiquer les œuvres des fils de la lumière. » C'est-à-dire, vous êtes, quand on est tourné vers Dieu, on vise on recherche sa fin, on cherche sa perfection, on souhaite réaliser, que soit réalisé en nous, le projet de Dieu qui nous a créés et qui nous crée. Parce qu'on a vu hein, le mystère du temps, Dieu n'a pas créé une fois pour toutes, non, il maintient sa créature dans l'être et il nous conduit vers notre fin. Ainsi donc, Dieu apparaît vraiment comme le bien commun de l'univers. L'univers et dans l'univers, l'homme, eh bien, tendent vers Dieu. Hein? L'homme est en route, hein, in via, on l'a déjà dit, l'homme est en route vers Dieu dans l'univers dont il fait partie. Je suis toujours frappé d'entendre aujourd'hui combien nous n'appelons plus la terre que nous habitons, terre, mais que nous l'appelons planète, comme si le monde dans lequel nous vivions était équivalent à toute autre planète. Or, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas trouvé tout ce qu'il nous faut. Il ne s'agit pas de trouver une trace d'eau quelque part. Il ne s'agit... Non, vous imaginez tout ce qu'il faut pour que nous puissions être dans le monde. Donc le monde, il a sa propre perfection, bien sûr, mais ensuite il y a cette autre perfection que Dieu veut pour nous, faire de nous ses enfants bien-aimés. Alors, ça peut paraître parfois un peu étrange comme ça d'entendre ce que je vais dire maintenant, mais saint Thomas, du coup, n'a pas peur, lui, de parler dans sa théologie de la communauté de l'univers. Nous formons, nous dit-il, la communauté de l'univers. On se dit, mais enfin, je ne fais pas communauté avec un arbre, avec un animal. Eh bien, si, pourquoi? Parce qu'il nous dit, ben, qu'est-ce que ça veut dire faire communauté? C'est avoir une même fin. Hein? Donc, cette fin, nous, ben, c'est la bonté de Dieu. Hein? Nous procédons de cette bonté de Dieu. Hein? Une communauté répond à un bien commun. Enfin, nous allons terminer par lire notre petit passage de saint Thomas d'Aquin. Si je retrouve la page, bien sûr. Je vais la prendre ici, ça ira plus vite. Dans lequel on va voir, parce que c'est ce qu'on va amorcer aussi, qu'il y a du coup, du fait qu'il y ait ce bien commun qu'est Dieu, il y a une loi. Nous sommes régis par le bien, poussés irrésistiblement par ce bien. Alors, je lis cette réponse de saint Thomas d'Aquin. C'est encore tout un autre contexte, on est dans la prima secundae, bref, peu importe, la question qui est celle de saint Thomas, c'est l'acte humain, en tant qu'il est bon ou mauvais, entraîne-t-il mérite ou démérite devant Dieu? Vous allez lire, quand je vais lire la réponse de saint Thomas, vous allez comprendre la problématique. Là, dans la deuxième partie, on n'est plus dans le monde de la création, on est en train de réfléchir sur l'homme. Là, l'acte humain, en tant qu'il est bon ou mauvais, est-ce que ça entraîne mérite ou démérite devant Dieu? Comme on l'a vu, répond saint Thomas, les actes de l'homme ont mérite ou démérite en ce qu'ils sont ordonnés à un autre homme, soit en raison de lui-même, soit en raison de la communauté dont il fait partie. Bon, je ne commente pas ça parce qu'on verra plus tard justement la constitution de la société, etc. Nos actes, bons et mauvais, acquièrent mérite ou démérite auprès de Dieu de ces deux manières. Ils ont rapport à Dieu lui-même en tant qu'il est la fin ultime de l'homme. Car tous nos actes doivent être rapportés à leur fin ultime. C'est aussi celui qui commet une mauvaise action, qui ne peut être rapportée à Dieu, ne rend pas à Dieu l'honneur qu'il lui doit comme à la fin ultime. C'est ce que je vous disais à l'instant. Hein? Nous sommes faits justement pour pratiquer ce que saint Jean appelle les œuvres de la lumière, en étant vraiment tournés vers Dieu, illuminés par Dieu. Voilà que là, nous sommes censés poser un acte bon. Mais lorsque nous ne posons pas un acte bon, eh bien, c'est ce que nous dit ainsi saint Thomas, eh bien, l'homme ne rend pas à Dieu l'honneur qu'il lui doit comme à sa fin ultime. Mais du point de vue de la communauté universelle, ben oui, parce que saint Thomas dit, attention, vous posez des actes, mais vous ne posez pas des actes isolés d'individus, ça n'existe pas. Vous posez des actes au sein de ce qu'on appelle le corps social, de cette société que vous formez. Du point de vue de la communauté universelle, nos actes ont aussi rapport à Dieu. Car dans toute communauté, je vous ai parlé tout à l'heure de la communauté de l'univers, hein, dans toute communauté, celui qui gouverne est chargé de veiller au bien commun. Cela sera vrai pour celui qui devra recevoir son autorité de Dieu et exercer une autorité dans le monde. On verra, l'anarchie est impossible parce qu'il y a justement ce bien, parce qu'il y a des choses plus nobles et moins nobles. Eh bien, il y a des chefs, hein, il y a des garants de l'autorité. Pourquoi ? Chargé de veiller au bien commun. Souvenez-vous de ce que nous avons dit de Adam dans le jardin. Il est là aussi pour garder. Et saint Augustin était embêté parce que pour lui, la vie sociale arrivait après le péché. Alors que saint Thomas corrige cette erreur en disant non, la vie sociale, elle commence déjà en Adam et Ève, la vie de société. Et du coup, il faut garder quoi ? Ben, il faut se garder orienté vers Dieu, orienté vers le bien, orienté vers la bonté de Dieu. Voilà aussi pourquoi nous sommes naturellement appelés à poser des actes qui sont bons et non pas des actes mauvais. Donc dans toute communauté, celui qui gouverne est chargé de veiller au bien commun. C'est donc à lui qu'il appartient de récompenser le bien et de punir le mal qui se font dans la communauté. Mais si c'est vrai dans la communauté, c'est encore bien plus vrai de Dieu, qui est là justement aussi pour rendre la justice. Or, c'est là où arrive saint Thomas, Dieu est le gouverneur et le chef de l'univers. Nous l'avons vu dans la première partie, mais justement la première partie, c'est de là que j'ai tiré le texte de tout à l'heure. Donc, pardon, Dieu est le gouverneur et le chef de l'univers, et en particulier des créatures raisonnables. Ben oui, plus on va ressembler à Dieu, plus on a une relation intime avec lui. Par suite, nous dit saint Thomas, il est évident que les actes humains entraînent mérite ou démérite devant lui. Pourquoi ? Sinon, nous dit saint Thomas, et c'est très juste, sinon, il faudrait conclure que Dieu se désintéresse des actions humaines. Mais Dieu ne se désintéresse pas des actions de l'homme. Alors voyez, le petit chêne, pour prendre l'exemple, il n'a pas des moyens d'action aussi importants que l'homme. L'homme, il a la volonté, l'homme, il a son intelligence, donc il va pouvoir interagir dans le monde. Il va pouvoir lui poser des actions qui sont ou bonnes ou mauvaises, qui vont avoir des répercussions au sein de la communauté humaine que nous formons. Mais si je pose une action mauvaise, je ne corresponds pas à ce bien, à cette bonté de Dieu dont toute la création est marquée. Et du coup, là, je ne participe plus à la louange de la création, mais je fais quelque chose pour lequel je ne suis pas créé. C'est ça qui est contre nature, c'est de mal agir. Donc gardons cette notion de ce bien commun de l'univers, parce que comme on s'efforce de tout tenir, il y a bien sûr cette relation bien particulière que Dieu a avec l'homme, la créature spirituelle, mais toute cette histoire sainte, elle se fait, si vous voulez, dans le paysage de l'univers, et avec cet univers dont nous sommes une partie, eh bien, nous recevons cette bonté de Dieu aussi, qui nous perfectionne.